À qui appartient la connaissance scientifique ? Est-ce aux chercheurs qui en sont à l'origine ou au public qui la finance ? Eh bien, ni l'un ni l'autre, puisque ce sont les revues scientifiques dans lesquelles sont publiés les travaux des chercheurs qui ont le quasi-monopole des études et du savoir. Et ces revues, vous allez le voir, font payer très cher l'accès à leur contenu. Ce business sur lequel repose la publication scientifique est de plus en plus critiqué et de nouveaux modèles tentent de s'imposer pour essayer de remettre en cause justement ce système. Avec mes invités, nous allons vous faire découvrir la chaîne de production, les coulisses donc de ces publications. Et puis nous évoquerons les autres modèles qui sont possibles. J'attends vos messages et vos témoignages. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui les coraux malades du plastique.
Oui, une étude qui, pour la première fois, fait un lien entre la présence de déchets plastiques et les maladies chez les coraux. On en discute avec un spécialiste des récifs, Mathieu Serré pour l'IRD.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Thomas Kalevitch.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Villard.
Et nous allons donc pénétrer ensemble dans les coulisses des publications scientifiques, dossier dans un instant avec mes invités que je salue, la physicienne Martina Knoop et Marin Dacos, directeur d'Open Edition. Bonjour à vous deux.
Bonjour, bonjour Mathieu.
Bienvenue. Martina Knoop, est-ce que la publication scientifique, c'est d'abord un énorme business ?
On peut le décrire comme ça, un peu. On se soumet aujourd'hui à la volonté des grandes maisons d'édition et on vend notre matière première qui est le savoir scientifique.
Ouais, donc tout ça n'est pas public, hein. Il y a aussi de l'argent en jeu, beaucoup.
Hein. Beaucoup d'argent, ouais. Et on va en parler en détail.
Marin Dacos, est-ce qu'on peut imaginer que très vite une mise à disposition gratuite des études scientifiques soit possible un peu partout dans le monde ? On sent que ça lézarde de partout quand même.
Voilà, hein. De plus en plus, ouais. Et de plus en plus vite. Ça fait 30 ans qu'on y travaille, donc on progresse chaque année. Mais en revanche, c'est pas très rapide. Il faut changer un système.
C'est ça, on va le décrire ensemble justement ce système. Et puis vous allez répondre aux auditeurs pour comprendre comment tout cela fonctionne. Parce que c'est absolument central au cœur de la science et du travail des chercheurs. Franceinter.fr pour nous retrouver.
La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Le plastique rend-il les coraux malades ? C'est la question posée aujourd'hui à la une de la science.
C'est un véritable trésor, la plus grande barrière de corail du monde. 2600 km au large des côtes australiennes. Mais sous la surface, les couleurs ont disparu. Les récifs ont des allures de cimetière. L'eau est trop chaude pour ces organismes fragiles, à terme condamnés si la température ne baisse pas.
Et il faudra peut-être ajouter les déchets plastiques aux menaces qui pèsent sur les coraux, puisque cette étude publiée dans la revue Science, c'est une première. Menée sur 8 récifs coralliens en Indonésie, en Thaïlande et en Australie, elle montre donc que les coraux dont les récifs sont pollués par les déchets plastiques sont 8 fois plus malades que les autres. Un lien nouveau, une menace nouvelle pour ces animaux qui s'ajoutent au réchauffement et que nous tentons d'expliquer, Axel, avec nos invités.
Oui Mathieu, nous sommes en direct depuis La Réunion avec Mathieu Serré. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez, Mathieu Serré ? Alors, je crois qu'on a un problème avec le duplex. Dans notre studio, on est aussi avec Reporter.net, Hervé Kempf, comme tous les lundis. Bonjour Hervé.
Bonjour Axel.
Alors, on va faire une tentative à nouveau sur la réunion. Mathieu Serré, est-ce que vous nous entendez ? Non, on va le rappeler dans un instant. Apparemment, il y a un petit problème de communication. On va donc en discuter avec notre chercheur dans quelques minutes. Hervé Kempf, on peut peut-être donner le sommaire de Reporter.net tout de suite, puisqu'on on a 2 minutes devant nous à combler.
Tout à fait. Et donc, on n'était pas dans les océans, mais on reste dans les eaux et les eaux de la Seine, notamment, puisque un de nos journalistes vit dans une ville qui est affectée par la crue, qui reste très importante, qui atteint un plateau aujourd'hui, et a choisi le roi. Et du coup, notre journaliste Maxime Laurent raconte comment le fait d'une inondation change la ville et surtout ça conduit à l'idée qu'il faut concevoir l'urbanisme différemment. Peut-être qu'il faut que les villes riveraines ne vivent pas contre le fleuve mais avec le fleuve. Et puis toujours dans l'eau, vous voyez aujourd'hui ça se présente ainsi, une vraie révélation de notre correspondant à Tirana en Albanie. Il y a en ce moment une véritable tsunami de barrages selon l'expression de scientifiques et d'écologistes locaux. C'est-à-dire que plus de 3000 barrages de différentes tailles sont prévus dans les Balkans, en Yougoslavie, au Kosovo, en Serbie, etc. Et ça avec un impact écologique extrêmement fort et la contribution, hélas, de l'Union européenne à contrario de ses engagements environnementaux.
Vous avez aussi un sujet sur ces milliardaires américains qui vont sur des îles, c'est ça, ou qui vont en construire en tout cas pour se protéger du réchauffement climatique.
Tout à fait, c'était la semaine dernière, mais l'article est toujours visible et c'est notamment promu par des milliardaires de la Silicon Valley qui imaginent dans le courant libertarien, comme on dit, c'est-à-dire les gens néolibéraux, les milliardaires qui pensent qu'il faut une liberté totale d'agir et donc ils veulent fabriquer des îles artificielles qui seraient loin de tout État. Et ils sont en discussion avec la Polynésie française pour cela.
Voilà, ben nous on aurait bien aimé aller sur la Réunion, sur l'île de la Réunion. Malheureusement, on a un gros problème de téléphone puisque nous sommes en direct et il faut renoncer à cette une de
et
la
ben
science,
dommage.
Axel. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de parler des coraux et des plastiques une autre fois. On va passer tout de suite au reste de l'actualité. Avec des médicaments plus dangereux qu'utiles, pour la sixième année consécutive, la revue Prescrire publie une liste de médicaments à écarter en cause de leurs effets secondaires disproportionnés, allant du trouble cardiaque au risque de cancer. Rédigée et relue par des dizaines de médecins et de pharmaciens, la revue recense 90 médicaments, dont 79 commercialisés en France. Parmi eux, de nombreux sont couramment utilisés comme l'ercéfuril ou le kétom. Les auteurs attendent des propositions concrètes des autorités de santé concernant des alternatives de traitement aux effets secondaires moins prononcés. Apprendre aux moustiques à ne pas vous piquer. On savait déjà que certaines personnes étaient davantage susceptibles de subir les assauts de ces insectes, mais des chercheurs de l'université de Washington se sont demandé s'il était possible d'influencer leurs préférences et pour cela, ils ont simulé les vibrations et les accélérations subies par un moustique lorsqu'on essaie de l'écraser et les ont associés à l'odeur de différents hôtes. Et bien selon eux, les moustiques ont réussi à s'en souvenir et ont réagi en conséquence en évitant les personnes véhémentes. Une étude qui pourrait permettre la création d'outils plus efficaces de manipulation des moustiques et de contrôle des maladies qu'ils transportent. Et puis enfin, un robot mou pour explorer le corps. Des chercheurs de l'Institut Max Planck à Stuttgart ont mis au point un mini-robot de 4 mm de long, capable de marcher, de ramper, de nager et même de sauter. Fabriqué en polymère élastique dans lequel sont incrustées des particules magnétiques, il pourra facilement être ingéré ou inséré dans la peau. Manipulable à distance via un champ magnétique, les chercheurs espèrent l'utiliser par exemple pour acheminer des médicaments aux endroits du corps qui en ont besoin. Une vidéo montrant ces robots est visible sur la page Facebook de l'émission. Et on parle des publications scientifiques dans un instant. Lips meet teeth and tongue. My heart skips eight. At once, if we were meant to be, we would have been by now. See what you wanna see, all I see is him right now, him right now. I'll sit and watch your car burn with the fire that you started in me, but you never came back to ask it out. Go ahead and watch my heart burn with the fire that you started in me, but I'll never let you back to put it out.
Thanks.
Your love feels so fake. My demands are high to make. If I could get to sleep, I would have slept by now. Your lies will never keep. I think you need to blow them out.
Blow them out.
I'll sit and watch your car burn with the fire that you started in me, but you never came back to ask it out. Go ahead and watch my heart burn with the fire that you started in me, but I'll never let you back to put it out.
7-4-2008, I still remember that. Heaven sent a present my way. I won't forget your laugh. Packing everything when you leave. You know you coming back. Wanna see me down on my knees, but that was made for a ring. I try to wait for the storm to calm down, but that stubborn bit be leading the war. We drawn down on each other, trying to even the score. We all been found guilty in the court of aorta.
And I watch your car burn with the fire that you started in me, but you never came back to ask it out. Go ahead and watch my heart burn
Billie Eilish et Vince Staples à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà les coulisses des publications scientifiques, dossier donc cet après-midi de l'émission pour vous faire découvrir un système que vous ne connaissez sans doute pas très bien si vous n'êtes pas scientifique, même parfois les scientifiques eux-mêmes ne connaissent pas forcément tous les rouages, un système pourtant au cœur du travail justement des chercheurs qui sont évalués par le nombre d'études qu'ils publient. Martina Knoop, vous êtes donc physicienne chargée de mission pour les publications scientifiques à l'Institut de physique du CNRS et puis chercheuse en physique quantique expérimentale dans un labo universitaire à Marseille. Et Marin Dacos, vous êtes ingénieur de recherche au CNRS, vous avez été médaille d'or de l'innovation en 2016 et vous êtes donc le directeur et le fondateur d'Open Edition. Déjà beaucoup de messages de la part des auditeurs qui nous rejoignent donc sur le site franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Martina Knoop, à quoi correspond ce rôle donc de chargée de mission pour les publications scientifiques du CNRS? Qu'est-ce que vous faites exactement alors?
J'essaye de faire un lien entre les chercheurs dans les labos de physique en France et tout le monde de la publication qui, pour nous, c'est donc le premier point de contact. Ce sont bien sûr les gens qui travaillent dans les bibliothèques, donc qui s'occupent des abonnements, des souscriptions. Et on essaye d'accompagner les chercheurs pour qu'ils puissent publier au moins au mieux et aussi lire au mieux.
C'est-à-dire
alors,
Lire quoi?
Alors, pour ça, il faut quand même un peu dire quels sont les rôles des chercheurs dans la publication. Le chercheur, non seulement rédige la publication avec ses résultats scientifiques, le chercheur est aussi évaluateur des publications des autres, puisque toutes les publications sont relues par des pairs qui peuvent juger de la qualité. Le chercheur est aussi éditeur, ou peut être éditeur scientifique, pour un journal. Et à la fin, donc tous ces tâches, le chercheur les fait gratuitement. Et à la fin, le chercheur ou son organisme paye pour que le chercheur puisse lire ses publications.
Ouais. C'est compris dans le salaire, au fond, du chercheur, ce que vous venez de nous décrire.
Ah oui, ça c'est les tâches qui font partie de notre métier. On publie, on évalue, on édite. Ça fait partie de nos tâches en tant que chercheur. Ouais.
Marin Dacos, vous êtes un pionnier de l'édition en ligne, en accès ouvert. Open Edition, donc, c'est un portail de ressources électroniques en sciences humaines et sociales. Donc on aura les deux aspects aujourd'hui avec vous. La physique d'un côté et pour vous, les sciences humaines et sociales. Comment ça fonctionne justement un tel site? Vous nous le présentez en quelques mots, on y reviendra bien sûr au cours de l'émission, mais déjà pour en avoir un aperçu.
On regroupe environ 500 revues, plusieurs milliers d'ouvrages et des milliers de carnets de recherche qui sont des blogs. En fait, on donne accès aux éditeurs qui publient des revues ou des livres, une plateforme que nous construisons pour qu'ils diffusent le plus largement possible en accès ouvert pour tous. Leur production évaluée par les pairs et produite par la communauté scientifique.
Combien de visites vous avez eues l'année dernière à peu près?
50 millions de visites dans l'année.
50 millions, ça va de plus en plus vite en tout cas?
Ça se développe, c'est une croissance qui est régulière. La demande est extrêmement forte, on a du mal à savoir qui sont les publics parce que c'est ouvert, donc on ne demande pas s'identifier, du coup, ce qu'on constate par exemple, c'est qu'il y a un fort usage en Afrique francophone, puisque dans notre discipline, une grande partie des publications sont dans la langue du chercheur et pas en anglais.
Ça, c'est donc propre aux sciences humaines et sociales?
C'est propre aux sciences humaines et sociales, même si on publie aussi en anglais dans un certain nombre de revues, soit sous forme de traduction, soit en première publication. Mais une grande partie de la publication est en langue française pour les Français, en langue italienne pour les Italiens. Et donc, du coup, les bassins linguistiques sont très importants. Et effectivement, les usages sont étonnamment élevés par rapport à quelque chose qui, dit-on, est scientifique. C'est-à-dire que c'est quand même de la recherche pour la recherche, c'est pointu. C'est pas du tout un magazine qu'on trouve en kiosque.
Donc vous avez employé le mot scientifique, c'est ça? Oui, j'ai bien entendu.
Vous avez bien entendu. Ouais, ouais. Ça permet de qualifier, en fait, ce qu'on anticipe comme étant quelque chose de gris, triste et ennuyeux, puisqu'il faut démontrer par l'alpha et l'oméga, avec tout un tas d'éléments méthodologiques, éventuellement des concepts plus ou moins ronflants, et donc de moins en moins accessibles au public. Mais malgré ce caractère quand même spécifique, pointu, qu'on peut qualifier aussi de niche, en fait, on trouve un public élargi. Parce que finalement, il y a toujours quelqu'un, un lecteur inattendu, quelque part, en France ou ailleurs, qui finalement s'intéresse à quelque chose, quelqu'un auquel vous n'aviez pas pensé, et qui n'est pas dans une université. Alors évidemment, on s'adresse d'abord aux académiques, aux universitaires, mais aussi à l'ensemble des gens qui s'intéressent à la société, et c'est la fonction des sciences humaines et sociales.
Bah justement, ouais, c'est une question que je vous poserai tout à l'heure sur la démocratisation et l'open access justement aux publications. Est-ce que ça va obliger ou pas les scientifiques à écrire un petit peu autrement pour s'adresser finalement aussi à un autre public qui pour l'instant n'a pas accès ou ne lit pas des publications? On y reviendra tout à l'heure. Martina Knob, l'anglais, ça c'est la langue incontournable quand on fait des sciences dures, comme la physique par exemple.
Oui.
On peut pas publier autrement qu'en anglais.
Il y a les magazines des sociétés savantes qui publient en français, la Société française de physique par exemple, en français, mais je dirais à 99% dans les conférences, dans les publications, c'est l'anglais.
Donc tous les chercheurs sont des super bilingues?
Tous les chercheurs se débrouillent plus ou moins bien, et je trouve que le niveau d'anglais a quand même bien augmenté.
Ouais. Non, parce que c'est quand même très compliqué, alors non seulement de lire une publication en anglais quand on ne maîtrise pas forcément très très bien la langue, mais l'écrire, c'est une difficulté supplémentaire, non? Et tout le monde n'est pas forcément capable de le faire.
Je pense qu'en physique, c'est pas la langue qui pose problème, c'est qu'on se concentre sur les contenus et donc qui peuvent être beaucoup plus compliqués que de l'écrire en anglais.
Allez, on va écouter un sujet extrait de DataGueule sur Internet qui nous présente justement en quelques mots le business des publications scientifiques.
34% de marge et une rentabilité 4 fois supérieure à ses camarades à la Bourse de Londres. Bienvenue dans le monde de l'édition scientifique. Ce sont les chiffres d'Elsevier, numéro 1 du secteur, qui possède 16% des revues scientifiques publiées dans le monde. Si vous ajoutez les autres géants que sont Springer Nature, Wiley Blackwell et Taylor & Francis, vous obtenez une mainmise qui grimpe à 40% du marché. Chaque année, les abonnements à ces journaux généreraient 7,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais quelle est donc l'équation magique? C'est simple. Demandez à des chercheurs de vous envoyer leurs travaux. Faites-les relire par d'autres chercheurs, si possible sans les payer. Ne gardez que les articles les mieux notés. Faites-en des journaux et vendez-les. À qui? Aux universités où travaillent les chercheurs qui vous ont envoyé gratuitement leurs travaux. Un business model de génie.
Eh oui, qui rapporte beaucoup d'argent, Marin Dacos, les chiffres sont impressionnants. C'est-à-dire que les revenus générés par les publications, ça se compte par milliards de dollars.
Milliards. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces multinationales ont des bénéfices supérieurs à ceux des géants du pétrole.
Incroyable.
Je parle après impôt et après business class, parce qu'ils ont un standing qui n'est pas exactement le nôtre. Et donc là, il y a une situation qui s'explique par une existence de monopole de fait, puisqu'en fait, ils n'ont pas le monopole de toute la production, mais ils ont le monopole de la revue qu'ils publient. Et donc, si une bibliothèque veut s'abonner à une revue, en fait, il n'a qu'un fournisseur. Ouais. Et ce fournisseur, si la bibliothèque tient à cette revue, ce fournisseur fixe le prix. Et donc là, on n'est pas du tout dans un système équilibré. Historiquement, ça s'explique par le fait que les chercheurs, un peu au fait des questions de propriété intellectuelle, ont confié à des éditeurs qui faisaient bien ce travail la gestion de la revue, mais au passage, ils ont cédé la propriété intellectuelle de la revue.
Alors c'est ça, parce qu'il y a une question de propriété intellectuelle. Voilà. Même quand on est chercheur et qu'on publie, c'est comme un artiste finalement avec une partition ou avec une chanson. On est auteur d'une œuvre intellectuelle.
On a beaucoup parlé aussi du droit d'auteur, bien sûr. On est auteur d'une œuvre et qu'on veut, en fait, c'est ce qu'on veut quand même que ce soit lu par beaucoup de gens. Je veux dire, quand on est chercheur, notre premier intérêt devait être de disséminer le contenu de ce qui est dans les publications. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont quand même animés par ça.
Donc de faire connaître.
De faire connaître.
De répandre le savoir.
Exactement.
C'est ça quand même l'idée.
Et de discuter avec les pairs. Ouais. Maintenant, c'est ce qui se greffe là-dedans. C'est pour ça que j'ai dit « devrait être ». Ce qui se greffe là-dessus, c'est cette discussion autour de l'évaluation. Aujourd'hui, un chercheur est évalué aussi par sa production scientifique. Et là, on peut constater certaines dérives qui peuvent être vraiment négatives. Et là, on va y revenir
sur cette question parce qu'effectivement, là aussi, elle est absolument centrale. Un message de Jean-Paul sur franceinter.fr, il nous demande, est-ce que ces publications sont liées au financement des subventions des laboratoires de recherche? Est-ce qu'il y a un lien ou pas?
Est-ce qu'il y a un lien
entre la dotation d'un laboratoire et justement ensuite les publications?
On peut dire que oui, il y a des secteurs où c'est même caricatural. Dans les milieux hospitaliers, il y a carrément des systèmes d'étoiles et de points qu'on additionne en fonction de qu'on appuie plutôt dans telle revue ou telle revue, et le budget du laboratoire est indexé sur ça.
Ouais.
Donc on est entré dans un système où on a un petit peu oublié l'évaluation qualitative et on fait de l'évaluation qu'on appelle quantitative.
Donc plus on publie, et tant qu'à faire dans de très bonnes ou très prestigieuses revues, et plus la dotation du laboratoire est importante.
Ça peut arriver. Il y a même des pays où on a des primes parce qu'on publie dans telle ou telle revue. Ce qui n'est pas le cas en France, mais en Chine ou en Amérique latine, ça peut exister.
En Finlande aussi. Donc, dans certains pays, en France, pour l'instant, on n'est pas là. Mm-hmm. On a quand même un système aujourd'hui qui est conscient du fait qu'il y a plus que le nom des journaux et dans lesquels on publie, et plus que le simple nombre des publications. Mais il faut être très vigilant à tout instant, parce que c'est beaucoup plus simple de compter les publis et de dire tel labo a fait ça, ça et ça, dont elle publie, et de vraiment évaluer et de lire le contenu d'une publication pour comprendre est-ce que ça vaut quelque chose ou non. C'est du boulot.
Et donc il y a la quantité et la qualité.
Alors, on est touché par un syndrome qui s'appelle le syndrome du salami.
Oui, qu'est-ce que c'est ?
Donc, ça, c'est... Puisque à partir du moment où moi, j'ai entendu quand même des gens introduits par des sommités en disant c'est un grand chercheur, il a 300 publications. Bon, et il en a 300 parce qu'en fait, quand il a fait une recherche, il a décomposé son résultat en 5 sous-résultats qui font 5 articles. C'est ce qu'on appelle un salami.
Ouais. Et en plus, il peut publier dans plusieurs revues à la fois, à partir d'un même article.
Attention, il donne l'impression que c'est de 5 recherches différentes. Hein, sinon, c'est de l'autoplagiat.
C'est ça. Hein, mais bon. Finalement, c'est le cas.
Ça existe. Ouais. C'est pas universel, mais ça existe. Ouais. Et le système l'y encourage. Donc, on essaye de faire changer ça. Et faire revenir, alors qu'on est passé en 4 siècles de quelques milliers de chercheurs à quelques millions, voire dizaines, voire centaines de millions de chercheurs. Du coup, le système s'est industrialisé, mais les règles sont un peu plus anciennes ils sont inadaptées. Il faut qu'on les fasse évoluer.
Françoise, sur franceinter.fr, demande comment un chercheur choisit sa revue, précisément. Comment
se fait ce choix ?
Parce qu'alors, il y a des revues très connues que nos auditeurs entendent régulièrement. On parle de Science, on parle de Nature, on peut parler du Lancet. Il y en a beaucoup. Mais comment le chercheur lui-même décide d'où va aller son travail ?
Là, il y a deux réponses, en fait. Il y a deux réponses. Il y a la réponse comment le chercheur devrait choisir sa revue et comment il le fait. Alors, comment il devrait ? Bien sûr, en fonction de l'audience qu'il veut toucher. Si je suis spécialiste dans un certain domaine, bien sûr, je veux toucher mes pairs et je veux donc disséminer ce que j'ai fait auprès de mes pairs.
Donc, on va cibler au mieux.
Ça, c'est le monde idéal. Alors, dans le monde réel, les gens ciblent quand même des journaux très prestigieux qui, accessoirement, sont les journaux les plus chers aussi. Mmh. Et donc, parce que ces journaux très prestigieux sont souvent des journaux avec une audience qui est très grande et multidisciplinaire. Mmh. Quand c'est une audience multidisciplinaire, mécaniquement, ça augmente l'impact d'un journal. Donc, ça veut dire que ça augmente le nombre de fois que ce journal ou que l'ensemble des articles d'un journal sont cités.
Et ça, c'est très important.
Ça, c'est très important.
Le facteur d'impact.
Ouais. Exactement. Mais le facteur d'impact, c'est une donnée qui est importante parce que c'est une moyenne. Donc, c'est une donnée qui est importante pour un journal, pas pour un article. Même dans un journal qui a un facteur d'impact qui est très élevé, il y a un certain nombre d'articles qui sont cités 0 fois ou une fois. C'est pas le prestige et le nom de la revue qui font que mon article est meilleur parce qu'il est accepté dans un tel journal.
Marin Dacos, en complément.
Par ailleurs, le facteur d'impact est une mesure totalement obsolète, qui a été inventée au début des années 70, au temps des cartes perforées. Donc, c'était déjà assez sophistiqué pour l'époque.
Ouais.
Cela dit, ça n'étudie que 20% des revues. Et donc, en fait, c'est un échantillon soi-disant représentatif. Je peux vous dire qu'en sciences humaines et sociales, on est très loin du compte, mais alors très, très loin du compte. Et donc, nous, on nous dit même qu'on ne fait pas de la science parce que nos revues n'ont pas de facteur d'impact. En fait, c'est juste un problème de thermomètre. C'est pas un problème de qualité de la science.
Ouais.
Donc là, il se trouve que là aussi, il y a un marché, le Web of Science, qui crée le facteur d'impact, a tout intérêt à ne pas intégrer plus de revues parce que ça lui coûte très cher. Il y a plus de 100 000 revues dans le monde. Il en étudie moins de 20 000.
Combien de revues ?
Plus de 100 000.
100 000 revues scientifiques dans le monde. Ouais.
Et ne comptez pas, ça compte pas là-dedans tous les ouvrages de sciences humaines et sociales. Il y en a plusieurs par an en France.
Alors c'est ça.
Plusieurs milliers par an.
Voilà, c'est le moment de le préciser parce qu'on va beaucoup parler de publications, d'études scientifiques, donc d'articles plutôt. Mais en sciences humaines, en sciences sociales, on parle de livres.
À peu près la moitié de la production est sous forme de livres et elle a plutôt en général plus de prestige. Si vous avez publié un livre, c'est mieux que l'équivalent en nombre d'articles. Pour des raisons historiques, on considère qu'on peut regrouper mieux, plus intelligemment sa pensée dans une forme plus longue, à mieux articuler. Et donc, c'est encore le règne de la monographie, même si les articles jouent un rôle fondamental. Et en général, quand on parle de système de publication, on l'assimile seulement au système des articles, qui n'est qu'une moitié. Pour l'ensemble des sciences humaines et sociales, qui est beaucoup de disciplines, hein, c'est la sociologie, l'ethnologie, l'histoire.
Ouais. On peut citer d'ailleurs un exemple très connu, Claude Lévi-Strauss avec Triste Tropique, hein, pour le coup, qui a été un livre très reconnu par le grand public, mais qui au départ était un ouvrage vraiment scientifique.
De recherche, absolument.
Ouais. Allegria demande sur le site, un ami docteur en physique lui a dit que lorsqu'il était étudiant, 5% à 10% des publications dans Science ou Nature venaient d'universités chinoises. À présent, 20 ans plus tard, c'est plus de 50%. Avez-vous des statistiques par rapport à ça et qu'est-ce que ça signifie comme déplacement des centres de connaissances? Et je crois que cette année, pour la première fois, les Chinois ont battu les Américains en nombre de publications.
Alors, en physique, on a fait une petite étude statistique qui est sur le site de l'Institut de physique du CNRS. On a fait une petite étude statistique pour regarder combien, d'où viennent les publications, combien et de quel pays. Et tout ça. Et on voit bien que les pays qu'on appelle les pays BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, sont en forte croissance. Ça vient aussi du fait que la Chine, notamment, a investi énormément dans la science et donc il y a beaucoup de publications, mais des publications de bonne valeur aussi. Il n'y a pas que donc il y a des gens qui disent bah oui mais la Chine c'est pas vrai. La Chine a un très bon niveau en science et donc on a donc un nombre de publications qui est fortement croissante et c'est ça aussi d'ailleurs qui met en péril un peu notre système traditionnel d'abonnement aux revues, parce que ces pays BRIC sont traditionnellement très peu abonnés aux revues en physique, et donc l'économie des revues ou des maisons d'édition se trouve biaisée par cet apport.
Ouais. Est-ce qu'on a le même phénomène en sciences sociales et en sciences humaines, justement ?
Il y a un phénomène d'internationalisation, mais pas à ce point, puisqu'en fait, les terrains sont géographiquement ancrés. Donc, quand vous étudiez, pour qu'un Chinois se mette à étudier la Troisième République, pour le dire rapidement, bien entendu, il faut qu'il vienne étudier des sources historiques en France. On n'en a pas en Chine. Et par conséquent, il va publier dans des revues chinoises sur l'histoire de la Chine. C'est assez logique, puisque l'objet est moins universel, puisqu'il est fortement culturel.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette discussion autour des coulisses des publications scientifiques.
Les gens s'en foutent. Les gens sont sans histoire, ils s'embrassent dans le noir. Les gens s'endorment sous les gens se disent tout. Et puis plus rien du tout, ils dorment un peu moins tard. Ne dorment plus du tout, mais toi, tu n'es pas comme eux, toi, tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier. Jamais oublié, toi. Tu n'es pas comme eux, toi. Tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier. Jamais oublié. Les gens sont fous. Ils regardent les étoiles et puis tirent en l'air à coups de revolver. Les gens se conduisent mal. Ils achètent le journal. Que le monde va mal, que tout est immoral. Mais toi, tu n'es pas comme eux, toi, tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier, jamais oublié. Tu n'es pas comme eux, toi, tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier. Les gens sont fous, les gens sont sans histoire, Les gens sont dérisoires et comptent plus que tout. Toi, 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 tu n'es pas comme eux. Toi, 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 tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier, jamais oublié. Toi, tu n'es pas comme eux. Toi, 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 tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier.
Les gens, c'était Raphaël.
La tête au carré. France Inter.
C'est une étude controversée qui établissait un lien entre le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, et l'autisme. Elle avait été publiée en 98 dans la revue médicale britannique The Lancet et avait fait grand bruit. Revue qui s'est aujourd'hui rétractée, 12 ans après donc. Le Conseil de l'Ordre a estimé il y a quelques jours que le médecin à l'origine de cette étude avait manqué à ses devoirs et agi de façon malhonnête. Ces travaux avaient conduit de nombreux parents à refuser de faire vacciner leurs enfants contre ces trois maladies, entraînant notamment un retour de la rougeole.
Voilà, on a souhaité passer cet exemple-là parce qu'il est très intéressant à commenter avec mes invités, donc pour parler des publications scientifiques, Martina Knupp et Marin Dacos, avec donc une étude très controversée qui a fait l'objet d'une publication dans une très grande revue, donc Nature en l'occurrence. Il y a eu rétractation et malgré l'évaluation par les pairs, il y a eu quand même un problème autour de cette publication.
Il y a pas de
personne n'est à l'abri.
Personne n'est à l'abri. Il n'y a pas de système parfait. On peut faire au mieux. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je pense que tous les chercheurs qui sont engagés dans ce processus d'évaluation, de relecture d'articles, ils font au mieux pour voir si les résultats dans une publi tiennent la route, que si c'est bien lisible, bien expliqué, tout ça, mais on peut pas faire mieux.
Cet exemple, il est intéressant sur les effets collatéraux finalement de ce type de publication qui font des gros dégâts parce que ça reste ancré dans la tête du public. Ce lien entre justement là ce vaccin contre la rougeole avec l'autisme, finalement encore des gens croit à ce lien, alors qu'il a été démenti. Et pourtant, cette publication est parue.
Ça, on est plutôt dans l'ordre de la... C'est pas le système scientifique qui est en cause, là. C'est la façon dont la société est capable d'appréhender le système scientifique. Parce qu'au fond, que cet article soit l'objet d'une manipulation ou d'une erreur, peu m'importe, qu'il y ait des erreurs, il y en aura toujours et il y en aura encore. Donc en fait, il faut que le système soit à tolérance de panne. C'est-à-dire qu'il soit capable de se réformer, de constater, tiens, il y a 10 ans, j'ai publié ça, mais à l'époque, je savais pas qu'il y avait tel élément et mon article se révèle faux. Je le déclare et je suis honnête. Il faut que la société soit capable de comprendre ça. Et donc, il faut qu'on ait des relais, c'est votre travail, et vous le faites bien, de transmettre vers le public plus large les avancées, les errements éventuellement. La Terre n'est plus plate depuis quelques siècles.
Ah bon?
Voilà. Mais oui, c'est assez logique qu'on ait eu besoin de passer par des représentations qui sont fausses. Et d'ailleurs, à peu près tout ce qu'on sait aujourd'hui est probablement faux
et
pourtant 100 ans.
C'est le cheminement de la science.
Voilà, c'est ça que je veux dire.
Absolument. Alors justement, il y a un message très intéressant de Charles qui nous dit « Pendant ma thèse, j'ai montré qu'une méthode ne pouvait pas marcher en mécanique des fluides. Du fait de ce résultat négatif, ni mon directeur, ni les revues n'ont accepté mon travail. Et je me retrouve maintenant coincé dans la recherche de poste. Pourtant, des résultats négatifs sont de même valeur que ceux positifs, voire même peut-être encore plus enrichissants. » Il pourrait faire gagner beaucoup de temps et donner de nouveaux challenges dans le domaine. Encore un exemple des limites de ce système. Ça, c'est intéressant, effectivement.
Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Des résultats négatifs sont des résultats et sont des résultats absolument importants parce que démontrer que quelque chose ne peut pas marcher ou dans un certain contexte n'est pas viable, c'est très important.
Mais il y a des publications de résultats négatifs ou pas? Ça existe ça? Franchement, ça paraît
trop peu,
très iconoclaste.
Ça existe, mais trop peu. Trop peu. Et effectivement, aujourd'hui, on publie la plupart du temps que des... Oui, la plupart des publis sont sur des résultats positifs. Il paraît que un des grands problèmes, ou ça pose un grand problème dans tout le domaine du médical, où des études sont faites, et puis vous imaginez l'argent qui est dépensé pour refaire une étude, parce que on ne sait pas que ça ne peut pas marcher.
Ça a un autre impact, c'est que vous faites une étude et ça marche, oui. Alors vous avez le choix entre dire c'est négatif, parce que ça marche ou ça marche pas assez, vous le jetez, ou bien, et donc on vous dit qu'est-ce que vous avez fait cette année? Et vous n'êtes pas recruté l'année d'après, etc. Ou bien vous poussez un peu, vous forcez pour que ça donne un résultat positif. Et en fait, c'est un des gros problèmes qu'on rencontre, c'est qu'un grand nombre de résultats dans certaines disciplines sont artificiellement positifs à cause du système. Et donc là, il y a un problème. Ouais. Il faudrait qu'on puisse dire, non, bah, ça marche, oui, mais ça, c'est pas
ça.
Trop reconnu.
Et c'est très dommage, parce que le fait de pouvoir dire ça marche, oui, ça peut aussi stimuler le reste de la communauté pour trouver, pour le coup, un résultat plus important.
Oui, mais on cherche plutôt les découvreurs et les inventeurs que ceux qui disent que ça marche.
Après, c'est compliqué, hein, surtout en sciences expérimentales, de dire, ou en numérique aussi, de dire, bah oui, est-ce que c'est moi qui n'ai pas fait le tour du problème exactement? Voilà. Est-ce que le problème est trop compliqué, trop complexe pour vraiment avoir un vrai résultat positif? C'est un sujet c'est très difficile de trancher là.
Est-ce que l'open access pourrait justement laisser plus de liberté à ce type de publication avec des résultats négatifs encore, même si paraît un peu étrange? Mais
je suis pas sûr que l'accès ouvert change quelque chose dans ça. En revanche, changer le système d'évaluation, oui, ça me semble excessivement important. Et du coup, derrière, on peut imaginer qu'il y ait des mouvements. Je pense qu'il y a une revue des résultats négatifs, mais rien que le nom, quand même, n'est pas très positif.
Oui, c'est vrai, oui.
Donc ça va être compliqué. Non, c'est pas l'accès ouvert qui change ça, parce qu'en fait, c'est le système d'évaluation qui est en cause, et le système d'évaluation, il peut fonctionner dans un système ouvert, dans un système fermé.
Mmh. Christophe nous dit, lorsque je travaillais à la bibliothèque centrale du Muséum d'Histoire Naturelle, la revue Nature, une des plus grandes revues pourtant, était surnommée le voici du monde scientifique. Ça m'a fait beaucoup rire, nous dit Christophe. Et effectivement, Martine Hackneux, vous connaissiez ce surnom.
Tout à fait, c'est un surnom.
Ça dit quoi au fond alors?
En fait, Nature, c'est une revue qui est très visible, et avoir son nom dans Nature...
À faire la coupe de Nature, c'est le Graal, quand même.
Bah, la une, n'en parlons pas, mais déjà être publié dans Nature, ça fait, c'est le rêve de beaucoup de scientifiques, parce que aussi, dans les comités d'évaluation, on le voit toujours, que les gens disent, oh, mais regardez, il a publié dans Nature. Ça doit être un bon scientifique, hein.
Ouais.
Et Nature, en plus, a une politique éditorial. Ça veut dire que Nature ne fait même pas relire tous les articles par des référis.
Ça, c'est pas sérieux.
Mais, non. Ils font un choix parce que ils souhaitent publier des sujets qui auront la plus grande audience, par exemple.
Mmh.
Et donc, il peut avoir certains petits domaines qui seront jamais publiés en Nature parce que le public n'est pas assez large. Et donc, effectivement.
Donc, ça veut dire que même dans une revue comme Nature ou Science, il y a des boulettes, des articles frauduleux qui peuvent passer aussi?
La fraude. On parle beaucoup de fraude. Je pense que la fraude, elle n'a pas vraiment augmenté. Le nombre de publications a augmenté. Et mécaniquement, le petit epsilon que constitue la fraude a augmenté avec. Dans Nature...
Ce qui se passe, c'est avec l'accès ouvert et même avec le numérique. En fait, les plagiats, en sciences humaines, par exemple, il y a beaucoup de plagiats, alors qu'il y a de la fraude dans d'autres disciplines.
Oui, c'est vrai.
Ça ne se voyait pas avant. Et donc, on avait beaucoup de mal à le savoir, parce qu'on ne pouvait pas faire des traitements automatisés, tout le monde n'avait pas accès, etc. Donc, la stratégie dans ma discipline, c'était de publier trois fois plus ou moins le même article dans trois revues très éloignées géographiquement et culturellement les unes des autres.
Et ça passait.
Et bien, ça passait. Ouais. Mais maintenant, ça se voit. Donc, en fait, a posteriori, hein, vous voyez, l'eau est un peu descendue, et il y a la trace sur la baignoire. C'est ce qu'on voit, hein, c'est la trace de la baignoire. Donc, moi, je ne suis pas très inquiet sur le fait qu'il y ait une augmentation, comme Martina, mais en revanche, ça se voit beaucoup plus. Par ailleurs, il y a quelques inquisiteurs qui essayent d'inventer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est très difficile de faire la part des choses. Mais en tout cas, ce dont on a besoin, c'est de rétablir de la confiance dans la production.
Damien nous dit, je suis jeune chercheur et je pense que le système de revue par les pairs n'est pas du tout efficace pour évaluer les publications scientifiques. Travail en plus non rémunéré, donc bâclé, accès aux données brutes difficiles, demande d'expertise hors du domaine de compétences et concurrence entre chercheurs ou à l'inverse, copinage. Alors, drôle de tableau,
et il
est pas loin de la vérité. Hein.
Non. Alors, je suis pas complètement d'accord. C'est vrai que un référé qui accepte de relire un papier qui n'est pas de son domaine de compétences, ça effectivement, on peut le reprocher au référé, hein, parce que moi, on m'envoie un truc, si je suis pas experte là-dessus, je dis non. Je sais pas faire. Le système tel qu'on a aujourd'hui. Mais comme on l'a dit avant, c'est certes pas un système parfait, mais on n'a pas encore inventé mieux. parce qu'il faut quand même, ne peuvent être un expert sur des publications que les gens qui connaissent vraiment le sujet. Donc, ça ne peuvent être que des pairs. Donc, on peut, bien sûr, réfléchir à faire des processus en aveugle, en double aveugle, en triple aveugle même. Mais, quand même, dans des communautés qui sont petites, ouais. Moi, on m'envoie pour référer un article dont je connais pas les auteurs. Je viens d'une petite communauté expérimentale, mais je sais exactement tout de suite après les cinq premières lignes
qui c'est. Donc, le double aveugle, ça fonctionne pas en physique. Par contre, en sciences humaines et sociales.
Alors, on essaye de faire du double aveugle. En général, c'est la bonne pratique. Le double aveugle, je l'explique quand même.
Merci.
L'expert ne sait pas qui il évalue. On enlève le nom. Et l'évalué, l'auteur ne sait pas qui l'a évalué. Il y en a, et par ailleurs, il se trouve qu'il faut qu'il y ait toujours deux évaluations et pas une seule. Mm-hmm. Et si les deux évaluations se contredisent, on en cherche une troisième. Donc, en théorie, ce système, il est bien parce qu'en fait, il protège les gens de vindictes et d'animosité réciproque. Bon, mm-hmm. En réalité, il présente aussi d'autres inconvénients. On peut avoir une mauvaise utilisation. Comme le dit Martina, y compris dans mon secteur des humanités numériques, c'est assez rapidement qu'on voit qui, en fait, est l'auteur. Parce qu'on est, une assez petite communauté, mais aussi je peux tout à fait lui dire, comme j'écris l'évaluation sans qu'il sache mon nom, je peux lui dire, mais vous ne publiez pas assez l'excellente bibliographie de Marina Kos, vous devriez plus citer Marina Kos, vous devriez vraiment, et c'est la condition pour que vous soyez publié. Alors c'est un seul exemple, mais je pourrais par ailleurs aussi prendre les jeux de données, ralentir la publication en disant bon, il faut corriger et publier par ailleurs un papier en ayant eu accès à ces données-là. Enfin bref, on voit qu'il y a potentiellement des dérives. Le vrai problème qu'on a, c'est que on a une telle inflation en termes de production qu'on est sursollicité. Et que moi, ça m'est arrivé d'évaluer des papiers en n'étant pas totalement au centre de la discipline, mais j'étais le seul disponible d'une certaine façon. Donc, j'ai fini par accepter en étant mal à l'aise. En fait,
c'est quand même gênant, ça, non ?
C'est très gênant.
Pour évaluer un papier, c'est quand même gênant si on n'en est pas le spécialiste ou au moins un fin connaisseur.
Quand on vous explique qu'ils ont fait le tour et qu'ils n'arrivent pas, parce que c'est beaucoup de travail. Et il se trouve qu'il ne s'est pas récompensé, alors pas par de l'argent, mais par de la reconnaissance. Dans notre système, ce qu'on vend, c'est de la réputation. À l'université, ce qu'on fait construire, c'est sa réputation, parce que les salaires ne bougent pas. Mais ce qu'on propose d'essayer, c'est l'évaluation ouverte par les pairs. Au lieu d'avoir une évaluation fermée et secrète, c'est qu'on la fasse ouverte et publique. Et du coup, on sait que j'ai travaillé dans l'évaluation de telle et telle revue, que j'ai engagé telle conversation avec tel papier. Et là, il y a quelque chose qui est potentiellement intéressant. Cela dit, ça n'a pas encore changé en profondeur parce qu'il y a beaucoup de problèmes liés aussi à ça.
Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup de messages pour vous. Je vous les transmets. On y consacre la dernière partie de cette Tête au carré autour donc des coulisses des publications scientifiques. Et vous êtes sur France Inter.
Sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Cinq chômeurs à se lamenter sur notre malheur en se disant qu'on se taperait bien la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne, flaquait le nous voit vers les murailles et qu'elle nous fait coucou les gens, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Par la taille, puis qu'elle nous emmène sur sa paille, elle nous fait le coup du zipplin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Ah ben nous on était cinq chômeurs à se payer une tranche de bonheur, une tranche de tagada, soin de soin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. We'll be right back. passer la ferraille, elle nous fit fumer de sa paille. Sacré bon Dieu, que c'était bien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. On pédalait dans les nuages au milieu des petits lapins. La fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint.
Et c'était Hubert Félix Stiefen à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà, on essaie de comprendre ensemble le système des publications scientifiques, système absolument central au cœur des travaux de tous les chercheurs en France et dans le monde, avec mes invités Martina Knoep et Marin Dacos. Et vos messages très nombreux sur franceinter.fr, donc vous pouvez poursuivre bien sûr pour nous rejoindre. On peut peut-être évoquer justement cet aspect du mandarinat. Est-ce qu'il est toujours en vigueur aujourd'hui dans ces travaux? Certains nous disent que justement ils n'ont pas pu publier parce qu'ils faisaient de l'ombre aux grands chercheurs de leur laboratoire. Martina Knoep, est-ce que ça c'est une réalité aussi ou pas?
Bon, je pense que je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça, ouais. Oui, ça peut arriver.
Marin Dacos, certainement. Mais des publications qui dérangent des chercheurs réputés, par exemple.
À mon avis, en sciences humaines et sociales, c'est impossible d'interdire quelqu'un.
Et qui donc ne voit pas le jour. Hein.
À mon avis, ça n'existe pas. Alors, sauf si ça peut exister dans le cas de niche, ce qu'on appelle une niche, un domaine de spécialité très étroit, si le directeur est aussi votre labo aussi le directeur de la revue de référence.
Oui.
Ça doit pouvoir exister, mais c'est très rare, puisque par définition, il n'y a qu'une revue de référence. Mm-hmm. Non, ça doit exister dans certaines disciplines que je ne connais pas.
Bon, on peut dire qu'il existe le contraire, qu'une recherche qui n'est pas forcément la super recherche avec ajout d'un nom, d'un grand nom dans la liste d'auteurs.
Là, par contre, ce sera publié plus facilement.
Exactement. Ouais. Donc ça, je verrais plus ça que le contraire, comme vous l'avez décrit.
L'idée que le patron veuille absolument co-signer quelque chose auquel il n'a pas du tout contribué, ça me semble plus courant.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il fait bosser les autres. Il fait bosser les autres.
Ça arrive plus que ce que vous avez dit.
Voilà, il fait bosser les collègues, il fait bosser les doctorants, par exemple.
De toute façon, dans une équipe de recherche, il y a différents rôles quand même aussi. Hein. Donc, c'est vrai que les doctorants sont souvent en premier plan, mais et il y a aussi des chercheurs seniors dans une équipe qui ont peut-être pensé les expériences initialement. Donc, normalement, il y a un ensemble, un collectif qui porte une publication.
Un coût, justement, d'une publication. Qu'est-ce que ça vaut exactement?
Alors, justement, j'aimerais bien commenter là-dessus parce qu'il y a beaucoup de chercheurs encore qui nous disent « Mais on rédige, on évalue, on édite, on lit et pourquoi on paye ?» Alors, puisqu'il y a un coût. Donc, la maison d'édition fait quand même des choses, nous fait notamment, organise ce processus de soumission, de rélectorat, et nous fait des archives aussi, parce qu'on veut quand même que notre publi elle puisse être trouvé dans un répertoire avec un DOI, aussi après 10 ans, être accessible par d'autres personnes, être référencé. Et donc, la maison d'édition fait quand même des choses et fait un peu de promotion aussi. Ouais. Et donc, je dirais aujourd'hui, un coût raisonnable, comme disent nos collègues éditeurs, qui sont des grands noms non commerciaux, c'est entre 500, 1000, 1500 euros.
Ouais. Ça, c'est le minimum, hein, Marin Dacos.
Ça dépend. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'édition, c'est un métier. Et quand on continue d'en avoir besoin, le problème, c'est les 34% dont on a parlé de bénéfices. Ça, on peut les enlever et il ne s'est rien passé.
Oui.
Hein, il ne s'est absolument rien passé sur la qualité du travail. Mais effectivement, c'est quand même des plateformes lourdes et complexes à développer. Il y a des processus de plus en plus professionnalisés avec de plus en plus de critères d'évaluation, etc. Donc, c'est normal que ce travail qui n'est pas un autre travail porté par les chercheurs soit l'objet d'une rémunération. La question, c'est à qui on paye, à quel moment du processus on paye.
Et Pierre nous dit, inadmissible que l'on doive payer payés pour des publications écrites souvent par des universitaires, payés eux-mêmes par le contribuable.
Alors
ça, c'est quand même le gros du problème.
C'est la raison fondamentale de du développement de l'accès ouvert, c'est que effectivement le contribuable ne voit pas revenir son investissement. Donc c'est assez légitime que la connaissance produite par des acteurs de l'État soit le plus largement possible accessible à tous.
C'est ça. Parce que si on veut lire une publication scientifique sur un site, il faut payer pour pouvoir y accéder en général. Hein.
Sauf que si le chercheur met le contenu de son manuscrit à disposition du public. Mmh. En physique, on a Archive qui existe depuis 91, donc une plateforme avec un miroir en France qui s'appelle HAL. Donc, où on peut déposer son article et tous les chercheurs ont accès à ce répertoire.
Sophie demande, que pensent vos invités de la plateforme C-Hub permettant d'accéder gratuitement à tous les articles payants? Alexandra Elbakian, sa fondatrice, devrait être nobélisée. Elle a tellement apporté à la recherche mondiale. La pauvre, elle est surtout très très embêtée par les autorités du monde entier qui lui demandent de payer des sommes folles et qui la considèrent comme une pirate.
C'est une pirate, techniquement. Ouais. Elle met en évidence, elle fait quelque chose d'illégal, on est bien d'accord, mais Science a publié une étude sur les usages de cette plateforme, puisque elle a aussi donné les données qu'on appelle de log, de fréquentation, et la question, Science a titré « Qui télécharge dans des papiers piratés ?» La réponse, c'est « Everyone », tout le monde. Mmh. Et il montre une carte animée d'absolument tous les pays sur toute la planète qui consomment du Sci-Hub. Alors, soit ils sont plus forts en ergonomie avec Sci-Hub, elle est toute seule au Kazakhstan ou je sais pas où, soit il y a un énorme appétit de connaissance qui n'est pas couvert par le système existant. Et donc, en fait, pour moi, Sci-Hub, c'est un magnifique symptôme de la crise de l'accès à la connaissance que nous avons aujourd'hui. Mmh. Évidemment, c'est pas durable, c'est un phénomène transitoire, mais qui permet de remettre en jeu cet appétit de connaissance qui n'est pas satisfait par le système.
Alors l'open source, c'est vraiment l'avenir, c'est l'alternative ultra efficace par rapport à ce système qu'on vient de décrire là, et qui ne satisfait personne finalement.
Alors l'accès ouvert. Bien sûr, c'est une réponse universelle, puisque non seulement le citoyen a accès, mais aussi vous avez tout un tas d'autres impacts positifs qui sont tout un tas d'organisations, par exemple une ONG, elle va pas les moyens techniques de s'abonner à toutes les revues. Ben là, elle va pouvoir avoir accès au contenu. Donc après, il faut trouver un financement pour ce système.
C'est là pour l'instant le talon d'Achille finalement
Oui, bien entendu. C'est la difficulté. Donc, un certain nombre d'acteurs se sont dit, tiens, on va faire payer l'auteur puisqu'on peut plus faire payer le lecteur. Donc, ça pose d'autres problèmes éthiques assez forts. Et puis, ça vous posera à terme des problèmes économiques parce qu'on tiendra, les grosses multinationales tiendront encore plus les chercheurs dans leurs mains. Mais on peut trouver des systèmes de financement collaboratif si les bibliothèques s'unissent. Le système auquel on pense, c'est un système de souscription. Actuellement, je vais parler des livres. Actuellement, quand une bibliothèque achète un livre, elle l'achète 20 euros. Donc, il faut qu'on en vende plusieurs pour couvrir le coût de production de l'éditeur. Il faut atteindre 10 000 euros, par exemple. Il faut en vendre 500. Si on en vend moins, l'éditeur, il est de sa poche. Si on en vend plus, l'éditeur gagne un peu d'argent. On pourrait changer le système en disant que avec 1000 bibliothèques qui achètent chacune pour 10 euros le livre, elles le libèrent. C'est-à-dire, elle cotise et au 10 000e euro encaissé, hop, le livre sera accessible à la planète entière. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Simplement, il faut que les mécanismes soient vertueux. Or, les mécanismes que certains nous proposent ne le sont pas.
Ouais. Martina Knoop.
Il faut dire que ces nouveaux mécanismes sont un peu une réponse aux demandes des grandes maisons d'édition. On a payé ces dernières 20-30 ans, on a payé des augmentations dans nos souscriptions de revues de l'ordre de 4 à 7% par an, voire plus. Or, nos budgets de recherche n'augmentent pas de 4 à 7% par an.
Ça serait,
oui. Ça se saurait, effectivement. Et du coup, et en plus, les grandes maisons d'édition ne vendent leurs revues que par bouquet. Donc, on prend le tout. Et donc, on prend 2000 revues, par exemple. Bien sûr que par revue, ça fait moins cher. Mais si dans les 2000, on ne lit de toute façon que 150, alors on n'a pas vraiment gagné de l'argent.
Allez, on termine par deux messages. Iris qui nous dit, savez-vous que la plupart des étudiants en sciences et en médecine vont sur le Darknet pour avoir accès gratuitement à des publications? Qu'est-ce que c'est que le Darknet?
C'est Sci-Hub.
Exactement.
Donc c'est vraiment l'accès gratuit avec un site pirate.
Ouais, c'est un site pirate. En fait, ils utilisent des accès qu'ont les chercheurs dans les bibliothèques, dans les universités, pour rapatrier un exemplaire du fichier et ensuite ils le délivrent depuis le Kazakhstan.
Et Catherine nous dit, il ne faudrait pas négliger les autopublications scientifiques destinées au grand public, assimilables à une véritable propagande. Elle nous cite l'exemple du nucléaire, par exemple. Donc des de grandes agences
qui
peuvent.
Ça c'est de la publicité. C'est pas des revues scientifiques. Pour moi, une revue scientifique, c'est quelque chose qui est rédigé et évalué par un pair. Donc, une brochure comme ça.
Guy nous dit, la commercialisation des connaissances scientifiques est insupportable. Rappelons le destin tragique d'Aaron Swartz, qui voulait simplement libérer de la connaissance.
Oui, alors Aaron Swartz était, sauf erreur, au MIT, il était étudiant à MIT, il a récupéré la totalité du contenu de G-Store, qui est d'ailleurs une plateforme de revue en sciences humaines et sociales, qui est toujours d'accès payant. Et il l'a libéré. Et il s'est fait attaquer par l'université, enfin par G-Store, puis par l'université, puis après par l'État américain. Et il est malheureusement mort puisqu'il s'est suicidé à cause de ses poursuites. Mmh. Donc ça fait partie, c'est un des martyrs de la science ouverte.
Merci beaucoup à tous les deux pour vos explications. On en sait un peu plus maintenant sur les rouages et ce sera utile pour tout le monde, même pour certains chercheurs, et vous me le disiez hors antenne, qui ne connaissent pas forcément tout le système non plus de bout en bout. Merci à tous les deux, Martina Knupp et Marin Dacos, avec donc Open Edition, hein, ce site. On peut aller jeter un coup d'œil.
Vous pouvez aller voir openedition.org, absolument.
Ouais. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À tous les deux. À bientôt. Merci à Stéphane Boja et Clément Vuillet qui étaient aujourd'hui à la technique. Demain, nous parlerons de la science des données.